Il est 7h.
Je pense que nous allons affronter une tempête. Une tempête économique, une tempête sanitaire, peut-être une tempête sociale, une tempête à tous égards.
Le comeback d'Édouard Philippe, un ex-premier ministre en meeting près du Havre hier soir, inquiet des perspectives pour les mois à venir. Tempête sociale justement, Béthune sous le choc, l'usine Bridgestone va fermer ses portes. 4 à 5 000 emplois en jeu au total. Le maire invité d'Europe 1 ce matin réclame des sanctions financières au pouvoir public. Se faire tester un parcours du combattant, même si on a des symptômes, des mesures sont annoncées aujourd'hui pour accélérer les procédures dans les villes les plus touchées. C'est l'un des enseignements du confinement. On investit dans une résidence secondaire dans laquelle on va aussi habiter et travailler une partie de la semaine. Détail avec Aurélien Fleureau dans ce journal. Et puis, dernière étape dans les Alpes pour le Tour de France. Le clan tricolore est à la peine, c'est le moins qu'on puisse dire.
Juste après ce journal, le Boeing 737 MAX, un rapport d'expertise accable l'avionneur et accuse l'administration américaine d'être infiltrée par les industriels. L'éclairage éco de Nicolas Barré à 7h15. Le Liban piétine et la France s'impatiente. C'est le regard international de Vincent Hervouette. L'édito sport, Virginie Fulpin, c'est à 7h20. Avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est toute une ville qui se réveille groggy ce matin. Béthune dans le Pas-de-Calais qui va voir disparaître son usine de pneus Bridgestone. Que vont devenir les 863 salariés, mais aussi les milliers d'autres qui dépendent de l'usine, les sous-traitants?
Le maire de Béthune, Olivier Gacquer, était l'invité de Sébastien Krebs à 5h40. Il ne se résout pas à cette fermeture et veut inverser le rapport de force.
Les sous-traitants directs, plus les emplois sur site, c'est à peu près 1500 personnes. Plus tous les emplois indirects qui sont sur le territoire, ça représente 4 à 5 000 personnes en réalité. Et vous parlez de fermeture du site, moi je dis qu'il ne faut pas l'accepter. Et c'est un peu l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de dire attendez. Vous avez annoncé la fermeture, discutons, regardons ce qu'on peut faire. Il faut inverser le rapport de force pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se rend compte que Bridgestone ne veut absolument pas discuter avec nous, alors je serai obligé de demander au service de l'État à tous ceux qui pourraient agir juridiquement, de ralentir finalement la fermeture et puis de faire en sorte que ce soit le plus coûteux possible à Bridgestone. Parce que plus on montrera la facture de fermeture de l'usine, et plus on se dit que Bridgestone réfléchira à la fermeture et préférera mettre de l'argent pour garder le site que pour le fermer.
Le maire de Béthune, invité d'Europe 1 ce matin. Pour l'instant, la direction refuse tout dialogue. Le gouvernement dénonce une décision inacceptable, une trahison. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, est sur la même longueur d'onde. Le numéro 1 du Parti communiste, Fabien Roussel, lui-même natif de Béthune, sera sur place ce matin.
Ce jeudi est justement une journée de mobilisation syndicale dans toute la France contre les suppressions d'emplois et pour réclamer des hausses de salaires.
Une centaine de rassemblements prévus dans toute la France et une grève à la SNCF et à la RATP qui ne devrait pas avoir de répercussions sur le trafic.
Tempête social en vue. C'est l'ancien Premier ministre qui le dit, Édouard Philippe, qui se faisait très discret au Havre. Il a donné son premier meeting hier depuis son départ de Matignon.
Oui, c'était à Octeville-sur-Mer, en vue des sénatoriales du 27 septembre. Il n'était pas en campagne pour lui, mais pour les candidats de la droite et du centre, l'occasion de faire passer quelques messages. Reportage d'Aurélie Herbemont.
Jamais un meeting en Seine-Maritime pour des sénatoriales n'avait attiré autant de journalistes. Le maire du Havre joue au roi du silence sur les affaires nationales depuis des mois, mais pour une fois, il laisse entrevoir un ancien Premier ministre toujours préoccupé par la situation du pays.
Je pense que nous allons affronter une tempête. Une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête à tous égards. Peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Mais je pense que les temps qui viennent sont des temps difficiles. Je pense que nous aurons bien besoin de cette capacité de rassemblement, de dépassement.
Rassemblement, dépassement et haros sur les logiques partisanes. Édouard Philippe envoie au passage quelques piques à son ancienne famille politique, LR, qu'il a banni au moment où il avait rejoint Emmanuel Macron.
Comme je n'avais pas respecté la ligne clanique, stratégique, on a préféré considérer que je serais mieux à l'extérieur. Et je dois dire que je suis assez reconnaissant au responsable de ce parti politique. Parce que c'est vrai que je suis plutôt mieux à l'extérieur.
Mieux à l'extérieur, ni LR, ni En Marche, très populaire et toujours mutique sur le rôle qu'il pourrait jouer dans la tempête.
Vous l'avez entendu, tempête sociale, tempête économique. On en parlera avec l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. 7h04, chaque jour un peu plus de foyers de contamination, un peu plus de personnes hospitalisées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit reprendre la main et annoncer de nouvelles mesures aujourd'hui.
Oui, concernant notamment les tests PCR, toujours aussi compliqués à obtenir rapidement, sans parler des files d'attente. Cela fait des jours que le gouvernement parle de prioriser ces tests. Ça va se concrétiser pour les laboratoires. Les précisions de Victor Dolande.
On va s'appuyer sur toutes les expériences locales lancées ces derniers mois pour affiner notre stratégie nationale de priorisation de tests, nous confie un proche d'Olivier Véran. Et l'une des pistes sur la table provient vient des hôpitaux de Paris. Depuis plus d'un mois, le dispositif Covisen réserve des circuits prioritaires aux médecins généralistes. Quand ces derniers reçoivent en consultation des patients avec une forte suspicion Covid, ils appellent immédiatement le centre Covisen dédié. Le patient est reçu, testé sur place, ainsi que ses cas contacts. En moins de 48 heures, les patients connaissent leurs résultats. Il existe 5 centres à Paris et selon nos informations, le ministre de la Santé devrait annoncer la création de plusieurs structures similaires dans les zones fortement touchées, à Bordeaux, Marseille, en Guadeloupe et même à Lille, dernière grande ville qui préoccupe le gouvernement.
Victor Delande parlait de Marseille, justement, dans les Bouches-du-Rhône. Il y a du rétro-pédalage dans l'air autour du port du masque obligatoire.
En début de semaine, le préfet annonçait la liste des 27 communes concernées dans le département avec interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes. Colère de plusieurs élus mis devant le fait accompli.
Et finalement, la liste a été révisée. Il ne reste que 17 communes, mais certaines ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive, comme Auriol, où s'est rendue Nathalie Chevance.
Dans cette petite commune provençale de 12 000 habitants, Madame le maire est tombée de haut en découvrant que sa ville figurait sur la liste rouge. Aucun cas de cluster avéré, écoles, crèches et collectivités fonctionnent normalement. Et pourtant ici, les mesures sont aussi contraignantes qu'à Marseille, sans plus d'explications de la part des autorités, dénonce Véronique Micheli.
Je ne comprends pas pourquoi nous sommes sur cette liste rouge. Officiellement, je ne sais pas combien nous avons de cas dans la commune, puisque je n'ai reçu aucune information. Ce qui me met en colère, c'est qu'on ne peut pas avoir d'un côté un discours qui donne la main au maire, et de l'autre côté décider à leur place. Et quand on se rend dans la commune d'à côté, on nous dit « on ne veut pas vous voir, vous êtes d'Auriol, vous avez la peste ».
Alors d'après la préfecture, ce sont 12 cas positifs sur 12 000 habitants qui font basculer la commune dans le rouge. Cela dépasse le taux d'incidence autorisé et c'est un coup dur pour les Auriolais.
Une petite ville comme Auriol, on ne s'imaginait pas qu'on était en rouge.
On est montré du doigt. Et puis quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça. On n'a pas eu de communication là-dessus. C'est cher payé, très cher payé.
Des mesures qui finalement ne s'appliqueront qu'aux communes de plus de 10 000 habitants rectifie la préfecture avec une liste qui sera revue chaque semaine, s'engage l'ARS. Auriol, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et puis dans la série des manifestations annulées, le festival du film britannique de Dinard n'aura pas lieu non plus. Il devait être présidé par Emmanuel Béart à partir du 30 septembre. Mais les chiffres de contamination sont inquiétants en Ille-et-Vilaine.
Beaucoup de Français en ont rêvé pendant le confinement. Changer d'air, avoir de l'espace, travailler hors de la ville. Certains ont eu la chance de transformer ce rêve en réalité.
Oui, c'est même une vraie tendance, Aurélien Fleureau. Acheter une résidence secondaire amélioré.
Oui, après les voitures hybrides, voilà les logements hybrides. De plus en plus de Français ont fait ce choix à mi-chemin entre la résidence principale et la résidence secondaire. Une tendance nouvelle, donc difficile à chiffrer pour l'instant, mais très concrète, comme l'a constaté Thierry Delesalle, porte-parole des notaires d'Île-de-France.
Les gens qui habitaient en région parisienne, dans le centre, dans l'urbain, ont tendance à se dire « je vais m'acheter un petit bien à la campagne, mais qui ne va pas forcément être mon lieu de vie principal, mais je vais me partager entre les deux ». Donc on n'est pas dans l'achat d'une résidence secondaire, quand évidemment professionnellement c'est possible, et que les enfants n'empêchent pas un déménagement complet. Ça va être du 50-50 ou du 1/3-2/3 à un endroit et à l'autre. C'est moins tranché qu'avant.
Et cette tendance, Aurélien, elle n'est pas uniquement parisienne.
Non, puisque les professionnels de l'immobilier l'observent aussi dans de grandes métropoles comme Lyon ou Bordeaux. Et en fait, tout cela confirme un mouvement entamé avant le confinement, la nette augmentation des transactions dans des villes moyennes, c'est-à-dire entre 10 000 et 100 000 habitants, avec un attrait prononcé pour des villes comme Orléans, Chartres ou Bourges.
Aurélien Fleureau. Et puis, sachez que les députés ont adopté en commission à l'unanimité une mesure qui doit simplifier l'expulsion des squatteurs. La notion de domicile sera étendue aux résidences secondaires ou occasionnelles. Il s'agit de mieux protéger le droit de propriété après l'affaire de la maison squattée à Théoul-sur-Mer.
On part maintenant sur la route du Tour de France. Dernière étape dans les Alpes aujourd'hui et le Slovène Roglic est toujours en jaune.
Oui, mais à 4 jours de l'arrivée à Paris, les chances des Français s'amenuisent encore un peu plus. Les espoirs affichés en début d'épreuve se sont envolés, Axel May.
Il a fait illusion pendant 15 jours. Benoît Cosnefroy, plus puncheur que grimpeur, a fini par perdre son maillot à poids et ce matin, plus aucun Français ne porte de tunique distinctive. Benoît Cosnefroy.
Je vais garder quelques maillots dans mon armoire. Du bonheur pendant 15 jours, j'étais pas venu au Tour de France pour porter le maillot à poids et j'en ai profité à 100%.
Au classement général, le meilleur Français reste Guillaume Martin, seulement 11e. Et pour remplir son objectif de victoire d'étape, il ne reste au grimpeur normand qu'une seule opportunité, aujourd'hui dans les Alpes. Autant le début de tour avait été plein de promesses pour le clan tricolore avec deux succès d'étape et un maillot jaune, autant cette fin de grande boucle apparaît laborieuse. Et ce n'est pas la distinction de coureur le plus combatif du jour décernée hier à Julien Alaphilippe qui effacera cette impression. Thibaut Pinot traîne sa peine et sa douleur au dos et ne fera que de la figuration dans le contre-la-montre final chez lui samedi à la planche des belles filles. Quant à Romain Bardet, il a donné hier soir des nouvelles rassurantes après sa commotion cérébrale, mais n'est pas certain de pouvoir reprendre la compétition cette année. Méribel, Axel Meyer Europe 1.
Aujourd'hui, 175 km entre Méribel et La Roche-sur-Foron. Un mot de foot, puisque la commission de discipline de la Ligue a décidé de sanctionner les joueurs exclus sur carton rouge lors du PSG-OM de dimanche dernier. Côté Paris, 6 matchs pour Kurzawa, 2 pour Neymar et Paredes. Sanction au moment où Paris l'a emporté contre Metz 1-0.
Oui. Toute petite victoire, 1-0 dans les arrêts de jeu.
Mais Paris au moins une victoire.
Paris qui ne rassure pas encore. Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h sur Europe 1, 7h11.